Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Salut la team podcast, ici Pauline Aignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business, de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus encore, avec pour objectif de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Nicolas en ligne sur la leçon du gratin et je suis très contente d'avoir pu répondre à cette question parce que j'ai beaucoup apprécié la question de Nicolas que je vous livre ici. Nicolas me dit « Comment se lancer dans un projet entrepreneurial lorsqu'on a peu d'expertise et de moyens ?» Ça, c'était sa première question. Et la deuxième question, non pas au niveau de l'expertise, mais vous allez voir qu'on y a répondu aussi dans cet épisode, c'était vraiment sur le sujet de comment réussir à savoir si on a un marché? Comment savoir si son client va adhérer à son produit ou pas, surtout si on est sur un produit innovant? Alors, j'ai vraiment essayé de répondre à ces deux questions avec Nicolas. Donc, d'abord, la question de l'expertise, où j'ai quand même cet exemple avec Gemio d'avoir lancé une marque de joaillerie. Alors, je connaissais strictement rien au secteur. Et donc, j'ai essayé de répondre à cette question avec lui en lui donnant quelques clés pour justement réussir à bien se faire entouré. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a parlé de cette autre question qui, pour le coup, est fondamentale pour n'importe quel projet entrepreneurial. Comment savoir si on a un bon fit de marché, si on a des clients potentiellement intéressés par son produit? Une question qui est absolument fondamentale et à laquelle j'ai donc répondu. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Nicolas ?
Oui, bonjour Pauline.
Et écoute, ravi de t'accueillir sur cette leçon du gratin, Nicolas. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis me dire qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin?
Oui, avec plaisir. Donc, tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui sur le gratin. Je suis très heureux d'être là. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en école de commerce. Mmh. Et depuis le début du confinement, donc en mars dernier, je me suis plongé dans le monde de l'entrepreneuriat à travers des podcasts comme Le Gratin, des lectures ou encore des vidéos. Et étant un grand passionné de sport, j'ai également commencé à travailler sur quelques idées de projets, mais très vite rencontré une vraie problématique, je dirais, ouais, que je pense tu as probablement vécu pendant la création de Gemio, et qui est de comment se lancer dans un projet entrepreneuriat quand on a donc une idée potentielle, mais sans vraie expertise, ni moyens financiers ou matériels, et surtout sans être sûr que l'idée plaise et qu'elle rencontre ce fameux product market fit.
Trop bien, j'adore cette question, je suis trop contente. Je t'avais dit en amont que j'ai découvert la question, c'est vrai, et en fait mon équipe les choisit bien ces questions, donc je suis ravie. En fait, c'est vrai que c'est un sujet qui me parle, parce que moi quand j'ai lancé Gemio, je ne connaissais rien, mais rien de rien à la joaillerie. Il se trouve que j'étais en train d'acheter ma bague de fiançailles, donc bien sûr, si tu veux, j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là, mais franchement, j'avais pas de famille du secteur, etc. Donc j'ai envie de te dire, c'est déjà la première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un désavantage de pas être un expert de base. J'en suis vraiment convaincue, parce que à l'inverse, ça risque aussi de te donner des idées que des gens du secteur n'auraient pas. Nous, par exemple, le fait qu'on ne soit pas du secteur fait qu'on a pensé complètement différemment le business model de la joaillerie, qui normalement, d'accord, est complètement fondé sur du stock. Quand tu es joaillier, habituellement, tu designes des bijoux, ensuite tu les produis, tu en fais du stock et tu les distribues via tes boutiques physiques. Et nous, n'étant pas du sérail, n'ayant pas cette connaissance et surtout n'ayant pas les moyens de nous payer du du stock qui en joaillerie, tu peux l'imaginer, coûte assez cher, eh bien, on a trouvé une autre solution qui était donc d'inventer la première marque de joaillerie personnalisée, donc où on fabrique le bijou sur mesure. Et donc, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que déjà, la première chose, c'est n'aie pas peur. Franchement, c'est pas parce que tu viens pas du secteur que tu n'es pas tout à fait capable de t'emparer de ce sujet. Après, à l'inverse, là où il faut être quand même honnête avec soi-même et pragmatique, c'est que si tu connais pas le secteur, il va falloir que tu t'entoures de personnes qui, elles, connaissent le secteur pour justement éviter quand même un certain nombre d'erreurs. Nous, typiquement, on connaissait rien à la joaillerie, donc en termes d'achat de pierres, d'achat de métaux précieux, en termes aussi évidemment de fabrication, il a quand même fallu à un moment donné qu'on trouve des personnes qui, elles, avaient l'habitude de faire ça et qu'on les challenge avec notre vision. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et notamment au début, la première étape fondamentale dans notre histoire, ça a été vraiment de trouver les ateliers partenaires avec lesquels jusqu'à aujourd'hui on travaille. Pour nous accompagner, pour nous accompagner dans le développement de Gemio et donc pour vraiment prendre part. Et donc on en a fait vraiment des partenaires stratégiques très tôt dans l'histoire de Gemio. Donc ça a été un gros travail, si tu veux, même humain, de les convaincre, de leur donner envie, de leur faire voir notre vision pour qu'ils nous partagent, notamment au niveau technique, tout simplement, comment est-ce qu'on fabrique un bijou, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire, parce qu'on avait cette problématique particulière de fabriquer sur mesure. Donc il fallait vraiment qu'on adapte la fabrication à notre production particulière. Et donc déjà mon premier conseil par rapport à ta question, c'est au-delà de pas avoir peur, c'est de pas avoir peur mais de rester pragmatique. Si t'es entrepreneur, tu vas te rendre compte, c'est toujours la même histoire. Il faut voir grand, il faut avoir des rêves, mais en revanche il faut quand même toujours ne pas tomber dans des illusions, si tu veux. Faut pas prendre ses rêves pour des réalités non plus, et donc il faut en permanence faire, comme je le dis, l'hélicoptère entre ce que tu veux, ta vision, là où tu te projettes long terme, et en même temps retourner sur le terrain en permanence et se dire ok, je suis pas du secteur, c'est très bien, mais par contre il va falloir que je trouve des experts. Donc tu peux réfléchir à trouver des mentors, à trouver des fournisseurs, à trouver des amis tout simplement, si tu veux, qui sont dans le secteur et qui pourraient quand même, souvent sur le produit, te conseiller pour que tu sois sûr de pas commettre des erreurs qui tout simplement pourraient te faire perdre pas mal de temps et d'argent. Donc ça, je sais pas si tu as des personnes dans ton entourage qui pourraient te conseiller là-dessus, mais c'est déjà un petit conseil que je peux te donner, qui est de pas nécessairement t'associer avec quelqu'un du secteur, mais en revanche d'avoir en tout cas dans ton entourage, dans ton cercle proche, des personnes qui vont pouvoir te conseiller.
D'accord.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as aujourd'hui ou pas du tout?
Oui, parce qu'en fait, je suis actuellement en stage chez Nike, donc c'est vraiment la boîte de rêve, moi qui souhaite... travailler dans le secteur, dans ce secteur là j'ai commencé un peu à rencontrer du monde qui pourrait potentiellement m'aider sur ce projet sportif là, donc oui, effectivement.
Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que il faut, et c'est pas être manipulateur ou être intéressé, mais vraiment il faut que tu arrives à créer des connexions avec des personnes de qualité qui pourront t'aider. C'est hyper important, et ça c'est un message que je peux donner d'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou pas. Si jamais vous avez une vision pour votre vie professionnelle et que vous savez que vous voulez plus tard travailler dans tel ou tel domaine, en fait créer un réseau dans ce domaine-là est une force exceptionnelle qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, de gagner beaucoup de temps, parce que vous allez bénéficier tout simplement de l'expérience de cette personne. Et donc toi, si tu es chez Nike, tu as cette chance, profites-en pour essayer de te dire dans quel secteur au sein de l'entreprise Nike j'aurais envie d'avoir de meilleures compétences, et donc essayer de rencontrer. Tu peux tout à fait, tu vois, envoyer un message, en parler à ton boss éventuellement si tu trouves que c'est mal approprié, mais essayer de rencontrer des personnes au sein de l'équipe Nike qui pourraient avoir de la valeur pour ta future entreprise, leur être très transparent avec eux sur ton projet, à mon avis. Je pense que c'est hyper important d'être franc, d'être honnête, parce que pour le coup, si jamais juste essayer de grappiller des infos sans être transparent, ça risque de complètement se retourner contre toi. Être honnête et ensuite essayer de, ce qu'on dit souvent en anglais, les onboarder, c'est-à-dire les motiver pour qu'éventuellement plus tard, quand tu vas réellement lancer ton projet, tu puisses peut-être en faire des actionnaires, peut-être donc en faire, comme je disais, des investisseurs, des actionnaires, peut-être en faire des partenaires, des fournisseurs ou juste des conseils externes. C'est tout à fait possible. Et nous, c'est ce qu'on a fait, comme je te disais, chez Gemio, tant avec nos ateliers qui sont des fournisseurs mais qui nous conseillaient, qu'avec certains actionnaires qu'on a choisis soigneusement, justement parce qu'on savait qu'on avait des déficiences, des limites, et qu'on ne connaissait pas tout, du tout, bien au contraire même, j'ai envie de te dire, sur le secteur de la joaillerie et du retail. Et donc, la qualité principale pour moi de l'entrepreneur, c'est pas tellement en fait d'avoir cette vision, c'est pas tellement de faire, mais c'est d'avoir toujours ce recul sur soi-même et de se dire, bah, comme tu le fais très bien en posant cette question, ok, moi j'y crois, j'ai une vision, j'ai envie de me lancer dans ce projet, mais j'ai pas cette expérience, je ne connais pas le secteur. Donc à un moment donné, il faut aussi que je voie la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, c'est que j'ai besoin d'aide probablement pour gagner du temps si je veux lancer ma boîte. Et donc pour ça, moi je te conseillerais d'être extrêmement proactif dans le fait de trouver des personnes compétentes en qui tu as confiance, qui pourront à terme te tendre la main le jour où tu en auras besoin.
D'accord. Et comment savoir si vraiment l'idée peut plaire? C'est également en s'entourant.
Oui, c'est ta deuxième question,
partageant...
bien sûr.
C'est ça.
Alors, pour ça, c'était donc la première question, c'était sur comment s'entourer, on va dire, de personnes qui vont pouvoir t'aider avoir soit techniquement, soit au niveau du produit, un minimum d'expertise sur ton secteur d'activité. Et la deuxième question, c'était effectivement, je connais rien au secteur, comment réussir à savoir si juste il y a un marché, quoi, parce
exactement.
Que globalement, je connais pas ton produit, mais s'il est un tant soit peu innovant, comme nous c'était le cas avec Gemio, une marque de joaillerie personnalisée online, ça n'existait pas, 100% made in France. Donc la première chose, c'est de se dire, est-ce que juste il y a un intérêt quelconque des clients pour ça? Et là, j'adore cette question parce que parce qu'en fait, c'est la base de la base de la base de l'entrepreneuriat. Moi, c'est ça qui me porte, c'est ça qui me fait vivre, c'est trouver des clients. Il faut que tu trouves des clients. Il faut que tu fasses un produit très simple. Il faut que tu fasses une première répétition, si tu veux, de ton produit, un premier prototype qui sera complètement imparfait, le fameux MVP, comme on en parle souvent dans les livres comme Lean Startup, etc., mais qui fonctionne et qui a marché, par exemple, pour Gemio, alors qu'on est une marque de joaillerie, c'est-à-dire que ce soit un site internet, que ce soit une paire de pompes, que ce soit un service, peu importe, il faut que tu te débrouilles, c'est ça ton job d'entrepreneur, pour créer un premier produit qui va dans le sens de ta vision, qui est imparfait, certes, mais qui va te permettre de tester l'appétence du marché pour ce que tu souhaites leur vendre. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec Gemio. Je te raconte en deux mots l'histoire. Donc, on voulait faire cette marque de joaillerie personnalisée online. Donc, pas de compétences sur joaillerie et franchement, aucune idée s'il y a un marché. Et bien, du coup, on s'est dit, OK, on se donne 3 mois pour lancer un site internet qui soit capable de vendre des bijoux personnalisés online. Ça a été très difficile, évidemment, mais on l'a fait. On a réussi à trouver des fournisseurs de pierres, de métaux, à trouver des fournisseurs aussi façonniers, donc qui fabriquaient, et puis en même temps à coder un site internet absolument dégueulasse sur WordPress, je me rappelle, qui était capable, si tu veux, de vendre ses bijoux. Les bijoux, je te raconte même pas, ils étaient moches, mais ils étaient moches. Tu peux pas imaginer, parce que c'était moi qui avais pris un crayon, qui savait pas dessiner, je m'étais dit, bon, allez, on fait ça. Donc c'était limite des Lego, tu vois. C'était genre, t'avais un rond et puis une pierre dessus. Mais c'était good enough. Parce que ça existait et que ça nous a permis, quand on l'a sorti, je me rappelle très bien, le 1er septembre 2011, de pouvoir commencer à se dire, on va tester ça auprès d'amis, auprès de clients potentiels. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Le site est sorti en septembre. Évidemment, on n'a pas eu nos premiers clients tout de suite, mais assez vite, parce qu'on en a parlé autour de nous, à notre réseau, qu'on a essayé d'activer un peu d'influence, des réseaux sociaux, etc. En fait, on a commencé à avoir quelques premières commandes. Et ces premières commandes, Nicolas, mais je t'assure, ça a été, je pense, les commandes et les personnes qui ont apporté le plus de valeur à l'entreprise en 10 ans d'expérience entrepreneuriale, parce que ces premiers clients vont te donner le là sur qu'est-ce qui est important ou pas sur ton produit, qu'est-ce qui compte pour eux, qu'est-ce qui à l'inverse sont des freins. Et donc ça nous a permis, mais vraiment, de construire beaucoup plus précisément notre prototype d'entreprise à ce moment-là, parce qu'on avait eu ces 4 ou 5 premiers clients qui nous ont dit, non mais nous, attendre 10 semaines, c'est pas possible, nous le 100% sur mesure, on s'en fout, on veut juste de la personnalisation, nous on veut du made in France. Donc vraiment, ça nous a permis de nous rendre compte d'énormément de choses, et on aurait probablement fait fausse route si jamais on avait fait, tu vois, un Excel pendant 10 ans et qu'on avait juste essayé dans notre tête d'imaginer la meilleure solution. Le terrain, le client, je t'assure, il n'y a que ça de vrai, c'est ça qui va te donner la clé, qui va te donner la solution et qui va te faire te rendre compte si oui ou non ton produit fonctionne ou pas par rapport à ton marché. Donc, mon message, il est simple, c'est qu'il faut effectivement peut-être que tu t'entoures, profite de ton expérience actuelle chez Nike, mais au-delà de ça, il faut juste que tu te dises quelle est la version la plus low cost et la plus simple du produit que j'ai envie de faire, que je puisse faire actuellement. C'est quoi mon MVP, donc c'est quoi mon minimum viable product, vraiment le minimum que je peux faire. Tu te mets une deadline et tu te la mets de manière très ferme, très spécifique et très courte, beaucoup plus courte que tu penses qu'il est possible. C'est-à-dire que c'est pas 6 mois, c'est pas 4 mois, c'est plutôt 2 à 3 mois maximum. D'accord. Et une fois que tu as fait ça, bah tu bosses. Juste tu bosses comme un chien. Tu crées ton produit. Et une fois que tu l'as créé, tu vois des clients. tu fais tout ce que tu peux, tu remues ciel et terre pour trouver des clients, tu vas les chercher avec les dents, c'est ça la vie de l'entrepreneur. S'il faut aller dans la rue pour faire des flyers, tu fais des flyers dans la rue, tu fais tout ce que tu peux sur les réseaux sociaux, tu passes sur la leçon du gratin, tu te débrouilles, mais tu essayes d'avoir 2-3 clients qui achètent ton produit, parce que si tu arrives à générer avec zéro moyen et un produit à moitié nul des clients, a priori, il y a de fortes chances pour que le jour où vraiment tu te lances en bonne et due forme, là, ça cartonne. À l'inverse, si jamais ça marche pas du tout, que tu te rends compte que t'as que des retours clients négatifs, qu'en fait, personne n'en a rien à cirer de ton produit, pas juste parce qu'il est moche, mais parce qu'en fait, juste, il n'y a pas d'intérêt pour ton produit, eh bien, laisse-moi te dire que tu seras content de t'être fixé une deadline à 2 mois et non pas à 6 mois.
D'accord. Et comment savoir quelle tâche prioriser dans ce sens-là? Par exemple, ne pas perdre du temps sur des choses comme le logo, comme
C'est simple, ça s'appelle le produit minimum pour vendre. Donc, c'est-à-dire D'accord. qu'il faut que tu puisses vendre ton produit. Donc, il faut que tu aies un moyen de le distribuer. Ça peut être dans la rue, ça peut être sur un site internet, ça peut être... Alors, une boutique, en général, ça coûte assez cher. Donc, je ne recommanderais pas ça tout de suite, mais ça peut être un pop-up, ça peut être en vente Tupperware. Enfin, à la rigueur, si tu as à toi d'y réfléchir. Mais les moyens minimums que tu vas avoir à utiliser en termes de temps, d'énergie et de ressources financières pour réussir à vendre ton produit. Donc, il faut que tu aies le produit. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est ton produit, mais mettons, des vêtements, un nouveau type de vêtements de sport. Ben, il faut que tu puisses avoir... même un prototype moche, mais que tu as un premier prototype que tu puisses vendre, il faut que tu puisses le montrer. Donc, ça veut dire que probablement, il faut que tu aies des photos, des choses comme ça. Effectivement, probablement, il te faut un nom de marque, un logo. Mais après, dis-toi que ça pourra changer. Donc, même s'il n'est pas terrible, c'est pas dramatique. Au pire, si tu veux, tu le testes. Meilleur des cas, tout le monde l'adore et à ce moment-là, tu peux le garder. Mauvais scénario, les gens le trouvent horrible, bon, bah, tu le changeras plus tard. Et puis, encore pire scénario, en tout cas, personne n'en a rien à faire parce que personne n'achète ton produit. Et du coup, c'est pas très grave si tu veux. Donc il faut pas trop se prendre la tête sur les détails à ce stade. C'est pas le D'accord. sujet. Pour l'instant, le sujet, c'est juste que tu testes si ton produit, si ton idée, en fait, elle a un potentiel ou pas. Donc, pour le tester, ben, c'est un test. Donc, si tu veux, c'est bricolé. Clairement, c'est bricolé. Il faut l'assumer. C'est pas grave. Tu feras ton vrai site, ton vrai produit, ta vraie image de marque plus tard, quand justement, tu auras déterminé si oui ou pas, tu as vraiment un marché qui est à même d'acheter ton produit.
D'accord. Très bien.
Mais si j'ai vraiment un conseil à te donner, Nicolas, d'ailleurs on va le faire ensemble, comme ça sera plus rigolo, c'est qu'en fait il faut qu'on se fixe une deadline ensemble. Donc là maintenant tu vas me dire, t'as peut-être pas envie de rentrer dans le détail, mais c'est quoi ton objectif? Donc c'est quoi ton objectif là de go-to-market? Donc comment est-ce que tu peux vendre ton produit? Qu'est-ce qu'il faut? Faut que tu crées un site internet capable de vendre un produit? Faut que t'aies ton premier prototype? C'est quoi l'objectif?
Le site internet est déjà créé. En fait, j'ai travaillé pendant 3 mois sur le site internet. Donc, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais l'idée, ce serait effectivement de vendre, d'avoir la première vente, de réaliser la première vente, simplement. Okay.
Première vente, achetée, 100% donc achetée via ton site internet.
Exactement.
Donc, et tu as déjà un produit qui existe?
C'est un service, oui.
D'accord. Donc, tu as déjà un service. Tu pourrais le vendre aujourd'hui si tu avais des clients, quoi, oui. Si j'ai bien compris. Ok, très bien. Bah, dans ce cas, j'ai envie de te dire, bonne nouvelle, t'as pas besoin de te fixer même 2 mois pour attendre. En fait, si je comprends bien, t'as plus grand chose avant de te mettre le pied à l'étrier. Donc, quelle est la deadline la plus courte pour que tu puisses vendre ton premier service, Nicolas? Dis-moi.
Je dirais 2 mois parce que c'est vrai que la contrainte de temps est assez présente avec le travail, tout ça. Je sais pas comment toi tu gérais au début avec Gemio parce que tu devais être.
J'étais encore étudiante au début, D'accord. exactement. Ben, je bossais beaucoup, j'ai envie de te dire. je faisais les cours le jour et je bossais beaucoup sur Gemio le soir. Et puis, même pendant les cours, si on est tout à fait honnête, je faisais un peu de Gemio. On ne le dira pas à mon école, mais c'était quand même un peu la vérité. Mais je me débrouillais. Et donc, 2 mois, sincèrement, je vais être honnête, d'après ce que tu me dis, ça me paraît assez long.
C'est long.
Ça me paraît assez long, ouais. Moi, j'aurais tendance à te dire 3 semaines.
D'accord.
Tu vois, là, on est le 8. Donc, on peut se dire, par exemple, le 29, tu vois, pour fêter le mois de novembre dignement.
D'accord.
Par exemple, le jeudi 29 novembre.
Jeudi 29 novembre.
À 10h du matin, tu te débrouilles Nicolas, mais tu as fait ta première vente. Donc, ça veut dire que d'ici là, il faut que tu aies mis ton site en ligne et qu'il soit effectif, que ton service, tu commences à communiquer dessus et que tu trouves juste quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire. Est-ce que c'est du web marketing? Est-ce que c'est déjà d'en parler à tous tes potes en leur disant la vérité, hein, que c'est un premier test, mais juste que tu te lances. Parce que le problème, c'est que si tu attends 2 mois, bah, c'est juste 2 mois où tu vas, je pense, passer beaucoup de temps à te poser des questions et pas à tester réellement le marché et le client. Et donc, c'est juste du temps perdu.
D'accord. Mais même si la première vente vient de mon entourage, comment savoir si vraiment c'est sincère et honnête pour
Alors, je sais pas quel est le prix de ton, je sais pas quel est le prix de ton service, mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand il s'agit de sortir sa carte bancaire, même l'entourage, à moins que tu sois sur vraiment un panier moyen à 5 euros, 10 euros,
non.
En général, va quand même le faire uniquement s'il est un minimum intéressé. Et ce sera quand même intéressant que tu vendes ton service, parce que même si c'est à ton entourage dans un premier temps, c'est pas très grave. Tu vas sans doute te rendre compte de plein de choses avec cette personne quand tu vas vendre ton service pour la première fois, parce que tu vas te rendre compte du service après-vente, tu vas te rendre compte qu'il va devoir t'appeler au téléphone, que je sais pas quoi. Donc peut-être que tu auras aussi complètement sous-estimé le temps qui est nécessaire pour générer ce service, je sais pas exactement. Mais laisse-moi te dire qu'avoir ce premier client qui aura payé, de qui tu seras responsable, va t'apprendre énormément, que ce soit sur le marché, mais aussi sur ton produit, c'est sûr.
D'accord. OK.
Donc, c'est pour ça, autant apprendre le plus vite possible. Donc, je compte sur toi, Nicolas. Le 29 octobre, à 10h du matin, tu me tiens au courant. Première vente réalisée de ton service. J'attends de tes nouvelles. Hâte de savoir... Enfin, t'as pas le choix, en tout cas. Hein, je vais te dire, si tu es passé dans la leçon du gratin, tu n'as pas le choix. Il faut que ça marche. Et donc, débrouille-toi. Dis-moi ensuite comment t'as fait justement pour réaliser cette vente. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc 29 octobre à 10h du matin. Je compte sur toi. Et toute l'audience du gratin me soutient et compte sur toi aussi. Donc, une sacrée pression sur les épaules.
C'est motivant.
Bon, bah écoute, en tout cas, bravo pour ton projet. Je trouve ça hyper cool qu'à 22 ans, tu te lances dans une aventure entrepreneuriale. Franchement, keep it up, c'est génial. Mais vraiment, je ne blague pas, je t'enverrai un message le 29. Donc, je compte sur toi.
D'accord. Eh bah, pas de souci. Merci beaucoup.
Bon, merci Nicolas. Je te dis à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.